L'astrologie n'a pas disparu dans notre société. Elle perdure sous deux formes principales, à savoir la lecture des horoscopes et la consultation des astrologues. Toutefois, j'ai remarqué que les enquêtes sociologiques consacrées aux faits astrologiques contemporains occultent vraiment cette seconde dimension de la consultation des astrologues pour se focaliser vraiment sur la problématique des horoscopes. De mon côté, justement pour pallier un petit peu à ce manque-là, j'ai entrepris d'étudier ces deux types de pratiques, ainsi que leurs articulations, la manière dont elles peuvent se combiner aussi dans l'expérience des individus. Alors pour ce faire, j'ai choisi de concilier trois techniques d'enquête. Donc d'abord, pour recueillir la parole des personnes impliquées dans l'astrologie, j'ai d'abord mené 35 entretiens approfondis, donc auprès d'astrologues, d'élèves en astrologie, de consultantes et de consultants. Grâce au concours d'une astrologue, j'ai également eu l'opportunité d'observer 8 séances de consultation. Et enfin, j'ai examiné à nouveau frais les prédictions astrologiques diffusées dans la presse écrite. C'est-à-dire que de septembre à décembre 2009, j'ai analysé le contenu des horoscopes, donc publié dans 5 journaux différents, à savoir un quotidien d'information, deux revues féminines et deux magazines d'astrologie. Alors l'objectif, c'était non seulement d'identifier les caractéristiques de ces textes, mais aussi d'interroger la manière dont les individus peuvent recevoir et interpréter ces messages. Donc il y avait vraiment ces deux objectifs-là à travers l'analyse textuelle des horoscopes. Alors au cours de mon enquête, très régulièrement, j'ai été confrontée à la question du genre. Puisque, évidemment, l'astrologie, et plus généralement la divination, sont identifiées à des trucs de bonnes femmes dans notre société. Alors, à cet égard, on peut remarquer, par exemple, que la plupart des personnalités associées à l'astrologie en France sont des femmes, comme, par exemple, Madame Soleil, Elisabeth Tessier, Françoise Hardy, ou encore Christine Asse, qui est un peu l'étoile montante de l'astrologie, qui est omniprésente sur la scène médiatique. Pourtant, il convient de remarquer que la féminisation de l'astrologie est un processus relativement récent, puisque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'exercice légitime de la divination astrale était réservé aux hommes. Il m'a donc semblé important de commencer par rappeler rapidement les circonstances historiques dans lesquelles s'est opéré ce renversement. Ensuite, l'étude des pratiques astrologiques contemporaines nous permettra de bien mesurer l'ampleur de cette mutation. Rejetée dans l'irrationnel, l'astrologie apparaît aujourd'hui comme une croyance typiquement féminine. Tandis que la présence de l'horoscope dans les magazines féminins semble presque relever de l'évidence aujourd'hui, les médias visant un public masculin ont plutôt tendance à proscrire ces prédictions. Les femmes, ciblées par l'astrologie de masse, sont aussi plus nombreuses que les hommes à pratiquer la divination astrale, donc qu'il s'agisse de lire l'horoscope, de recourir au service d'un ou d'une spécialiste, ou même de devenir elle-même astrologue professionnelle. En réalité, on verra que ce plus grand recours des femmes à l'astrologie s'inscrit pleinement dans le prolongement des inégalités de genre qui sont inscrites au cœur de l'ordre social contemporain. Alors tout d'abord, du point de vue historique, le phénomène astrologique est attesté en Mésopotamie dès la fin du deuxième millénaire avant notre ère. C'est vraiment à cette période que les scribes chaldéens vont commencer en fait à consigner l'interprétation des présages célestes sur des tablettes d'argile. Intimement liée à l'astronomie, l'astrologie, à l'époque, était l'affaire de savants qui occupaient des positions privilégiées au sein de l'élite politique et religieuse. Alors, bien qu'elles soient aujourd'hui clairement dissociées, séparées, l'astrologie et l'astronomie ont formé un tout indissociable jusqu'à l'avènement de la science moderne. C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment comprises ensemble comme une seule et même discipline. Donc, pour prévoir en fait les déplacements planétaires et interpréter à l'avance leur signification, ces savants se référaient justement au corpus de données qui était compilé par leurs prédécesseurs. Alors la transmission de ces recueils a énormément contribué évidemment au perfectionnement du savoir astronomique, mais a aussi permis de généraliser, de stabiliser le sens accordé aux conjonctures astrales. Alors l'importance de l'écriture dans l'exercice de l'astrologie inscrit vraiment cette technique dans le registre de ce que l'on appelle la divination déductive. Bien qu'il existe une multitude de procédés divinatoires, on peut séparer la divination en deux grandes catégories, donc la divination déductive d'une part, et la divination intuitive, également appelée divination inspirée, d'autre part. D'un côté, la divination déductive consiste à analyser des présages figurant sur des supports extérieurs. Donc il s'agit soit d'interpréter des phénomènes naturels, comme le mouvement des astres ou le vol des oiseaux, soit de décoder des signes qui sont artificiellement créés par la procédure divinatoire, comme des cartes, des dominos, des osselets, du marc de café, des taches d'huile, etc., etc. Dans tous les cas, la divination déductive, elle est pratiquée par des spécialistes qui doivent dominer un corpus divinatoire et également maîtriser l'usage des techniques prédictives. Or, les métiers savants, donc qui réclament une longue éducation lettrée, ont été réservés aux hommes pendant des millénaires. Donc, il y a justement une assyriologue, Brigitte Lyon, qui a beaucoup travaillé sur la question de la divination. Et à ce propos, elle écrit que le métier de scribe lui-même n'était qu'exceptionnellement exercé par des femmes et dans des contextes particuliers. Les femmes écrivaient souvent pour d'autres femmes, religieuses ou dames de la famille royale, probablement pour limiter leur contact avec la partie masculine de la population. Donc on voit bien que l'apprentissage de l'astrologie, comme celui des autres sciences de la divination déductive, était inaccessible aux femmes. En revanche, les femmes étaient reconnues capables d'entrer en contact avec les divinités par un autre moyen, qui était celui de la divination inspirée. Alors, contrairement à l'astrologie, ce que l'on appelle la divination intuitive ne peut pas être apprise, car elle relève de l'inspiration spontanée. C'est-à-dire que les prédictions sont directement délivrées par le devin, sans intermédiaire et sans signe visible, sans support extérieur. Elles peuvent s'exprimer sous la forme de rêves, de visions ou de transes prophétiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Mésopotamie, donc comme dans l'ensemble du monde biblique, les femmes avaient justement cette possibilité d'accéder au statut de prophétesse. D'ailleurs, les sources historiques que l'on a recueillies tendent à montrer que les femmes étaient parfois plus nombreuses que leurs homologues masculins dans le domaine prophétique. En réalité, la présence des femmes dans ce champ un peu de l'activité mantique, découle directement des propriétés qui leur sont attribuées. Puisque justement, comme l'ont bien montré Françoise Héritier et Pierre Bourdieu, cette dichotomie féminin-masculin, elle trouve son prolongement dans une multitude de classements dualistes qui président justement à la répartition des activités sociales entre femmes et hommes. Tandis que le masculin, en tout cas en Europe, est synonyme d'extériorité, de clarté, de rationalité, le féminin est à l'inverse synonyme d'intériorité, d'obscurité et d'irrationalité. Cette opposition des représentations et aussi des valeurs donc qui sont attachées au rôle de genre permet aussi d'expliquer l'inégale distribution des femmes et des hommes dans les deux grands types de pratiques divinatoires. D'un côté, la divination déductive, active et rationnelle, est reliée au masculin. De l'autre, la divination intuitive, passive et sensible, est reliée au féminin. Donc les femmes, associées à la nature, à l'invisible, aux émotions, était supposé entretenir des liens privilégiés avec l'au-delà dans l'Antiquité. Alors que l'astrologie était une science complexe réservée aux érudits, la consultation oraculaire était très souvent dispensée par des femmes, comme l'illustrent justement les grandes figures de la Pythie ou de la Sibylle dans le monde hellénistique. Ces femmes médiatrices justement entre le monde divin et le monde des humains étaient reconnues nécessaires à l'obtention de bienfaits pour la communauté, ce qui leur permettait justement d'accéder à des rôles religieux et par là même à des places importantes du point de vue de l'ordre politique et social. Alors, par la suite, le christianisme a tenté d'étouffer ces croyances, ou tout au moins de les récupérer. Dans l'Europe chrétienne, la divination a bien souvent été considérée comme une œuvre diabolique. Pour le christianisme, seule la parole divine, inspirée à un prophète reconnu par l'Église, peut permettre éventuellement aux êtres humains de sonder l'avenir, qui est décrété par Dieu. Donc on voit bien que les autorités ecclésiastiques, elles se sont complètement arrogées le monopole de l'activité prophétique, dont les femmes ont été très violemment écartées, puisque justement ces devineresses, assimilées à des sorcières, ont été persécutées par le pouvoir religieux et politique jusqu'à la fin du XVIIe siècle en Europe. Alors les pères de l'Église se sont aussi opposés à l'astrologie, considérée comme une pratique païenne et contraire justement aux dogmes chrétiens. Alors des compromis ont été trouvés, hein, des arrangements avec justement la religion chrétienne, et au XIIe siècle, le célèbre saint Thomas d'Aquin va proposer justement un compromis, selon lequel justement les astres inclinent mais ne nécessitent pas. Autrement dit, certes, les astres pourraient influencer le comportement de l'être humain, mais son libre arbitre, sa volonté, lui permettrait de résister à ce destin, et Dieu resterait ainsi le maître du monde, le maître de l'univers. Donc grâce justement à cet arrangement, la prédiction astrologique parvient à se faire accepter par l'Église, et les astrologues, à partir de là, vont acquérir une place de choix dans les cours européennes. Donc à cette époque, la plupart des astrologues sont des hommes de science qui pratiquent à la fois l'astronomie, la médecine dite des signatures et l'astrologie. Alors justement, la révolution copernicienne finit quand même par précipiter la ruine de la divination astrale. Après avoir rayonné comme ça sur les cours royales pendant plusieurs siècles, l'astrologie est remise en cause par l'héliocentrisme, puis éclipsée par la science astronomique au cours du XVIIIe siècle. L'astrologie, qui est alors privée de ce droit de cité académique, va trouver refuge dans les cercles occultistes où se retirent les savoirs et les pratiques discréditées par la science moderne. Donc, par exemple, hein, au sein de ces mouvances, on retrouve l'alchimie, la télépathie, la télékinésie, le spiritisme. Et l'astrologie va justement côtoyer l'ensemble de ces savoirs et ces pratiques. Alors, contre toute attente, alors qu'on la croyait enterrée, définitivement éteinte, l'astrologie refait surface au XXe siècle dans le monde occidental. En France, les premiers horoscopes apparaissent dans certaines revues féminines au début des années 1930. Alors, par exemple, hein, en 1932, le célèbre Journal de la Femme est le premier justement à intégrer l'astrologie en éditant une nouvelle rubrique intitulée « Éphémérides de la chance ». Alors, ce numéro a rencontré un succès fou. Du coup, la revue a décidé de poursuivre la publication de cette chronique jusqu'en 1942, je crois. Alors, le Journal de la Femme, c'est pas le seul magazine féminin à avoir intégré l'astrologie, puisqu'en 1939, la revue Marie-Claire va à son tour choisir de publier un horoscope. Alors, ce genre de rubrique va se répandre très rapidement dans les magazines féminins. avant de se diffuser plus largement dans la presse quotidienne. À partir des années 60, cette vague de l'astrologie va également déferler sur les ondes radio, au point d'aboutir au triomphe de la fameuse émission Madame Soleil, donc qui a quand même été diffusée quotidiennement sur Europe 1 pendant 23 ans, de septembre 1970 à septembre 1993. Alors ce qui est intéressant rapidement dans le cadre de ce programme, c'est que finalement l'espace-temps de la consultation, il s'apparente à une sorte de confessionnal médiatique, puisque l'individu se confie publiquement à l'astrologue, en dévoilant quand même des aspects très intimes de sa vie personnelle. Donc ce qui est fou, c'est que l'astrologie de masse, elle réussit à intégrer, à assimiler le privilège de l'astrologie de cabinet, cette relation de confidence, de confiance entre l'astrologue et le consultant ou la consultante, ce qui montre bien quand même les capacités d'adaptation de l'astrologie aux nouveaux outils de communication. Alors depuis le succès de Madame Soleil, la plupart des radios privées diffusent un horoscope quotidien. En revanche, la radio publique continue quand même à garder ses distances à l'égard de l'astrologie, à l'exception de France Bleu, qui quand même assure la diffusion de l'horoscope à l'échelle régionale. Les programmes d'astrologie sont aussi absents des chaînes de télévision publiques. Par contre, l'essor du câble, donc au début des années 2000, a permis à l'astrologie de s'introduire quand même sur le petit écran. D'ailleurs, il y a une chaîne qui est entièrement consacrée à l'astrologie, qui s'appelle Astro Center TV, qui a fait son apparition sur le satellite en 2006. Et justement, si vous, vous pouvez regarder cette chaîne, et vous verrez que tout au long de la journée, en fait, les astrologues et les médiums se succèdent à l'antenne pour répondre en direct aux questions des téléspectateurs et téléspectatrices. Et du coup, ils reproduisent très bien le modèle qui a été initié par Madame Soleil 40 ans plus tôt. Alors, en dehors de ces chaînes spécialisées, les rares programmes télévisés consacrés à l'astrologie ont pour but, finalement, d'alerter le public contre les manœuvres frauduleuses qui sont employées par ces charlatans. Dans ces émissions, on a une sorte de portrait robot de l'astrologue, qui correspond bien souvent à celui d'une femme, d'âge avancé, une cinquantaine d'années à peu près, accoutrée quand même de manière excentrique, et finalement qui entretient aussi une atmosphère un peu bizarre, un peu mystérieuse, un peu inquiétante autour de sa pratique. En résumé, c'est un peu l'image de Madame Irma, entourée de rideaux de perles, exerçant dans un décor enfumé, un petit peu sombre, et lisant justement l'avenir dans une boule de cristal. Donc on voit bien que ce stéréotype, quand même, en lui-même, contient déjà un certain nombre de représentations qui nous indiquent bien que la divination est associée à une pratique féminine. Alors l'astrologie, certes, elle s'invite quand même assez rarement sur les plateaux télé, par contre, elle reste très présente dans la presse écrite. Donc il y a une enquête qui a été récemment menée en 2013 par le sociologue Arnaud Esquer, qui révèle que l'horoscope apparaît dans 60% des 100 périodiques les plus vendus en France. Alors selon lui, il y a quand même deux critères qui vont permettre d'expliquer la répartition de l'horoscope dans les journaux. D'une part, il remarque que l'échelle de diffusion va jouer un rôle important sur la place de l'astrologie dans la presse écrite. D'un côté, il y a des journaux d'actualité diffusés à l'échelle nationale ou internationale qui ne comportent pas d'horoscope, alors que la majorité des quotidiens régionaux en publient un. D'autre part, il observe que la présence de l'horoscope dépend aussi directement de la thématique des différents journaux. Tout d'abord, il apparaît que les revues consacrés à des sujets jugés sérieux ou rationnels, comme la science, la politique ou l'économie, vont exclure de manière assez systématique l'astrologie de leur page. Ensuite, l'horoscope est absent des journaux dont le thème est censé viser un public masculin. Ainsi, les magazines dédiés à l'automobile, au sport, à la chasse, à la pêche, au bricolage, ne vont pas proposer à leurs lecteurs de consulter justement les tendances de la météorologie astrale. A l'inverse, l'horoscope est véhiculé par d'autres types de journaux que l'on peut diviser donc en trois grandes catégories. Donc, en dehors de la presse locale, l'astrologie figure dans les magazines qui traitent de l'actualité des stars, dans la presse de télévision et aussi dans l'écrasante majorité des revues féminines. Alors évidemment, le contenu de ces publications est très varié en soi. Par contre, l'espace typographique de l'horoscope s'y dessine toujours de manière quasi invariable de la même façon, c'est-à-dire qu'il apparaît généralement dans les dernières pages du journal, parmi un éventail de chroniques axées sur des activités attribuées aux femmes, comme la décoration, la mode, la cuisine, l'éducation des enfants ou encore la préparation des fameux remèdes de grand-mère. Donc on voit bien, à travers tous ces éléments, que le clivage de genre détermine très fortement la place des rubriques astrologiques dans la presse écrite. Alors l'analyse textuelle des horoscopes, que j'ai réalisée donc dans le cadre de ma recherche, révèle que ces énoncés, ces textes, intègrent eux aussi la différenciation du féminin et du masculin. Alors, à l'exception des horoscopes publiés dans la presse de la Manche, tous les autres supports que j'ai analysés, y compris les revues d'astrologie, se destinent explicitement aux femmes. Donc, on le voit tout simplement à travers l'accord des termes d'adresse, des adjectifs ou des verbes, qui nous démontrent bien que ces messages visent un public, un lectorat féminin. Au cours de mon analyse, j'ai aussi pu remarquer que ces prédictions, elles véhiculent une multitude de clichés sexistes qui sont particulièrement visibles dans la fameuse rubrique « Amour » des horoscopes. Donc ces notices sentimentales, qui s'adressent très clairement à des femmes hétérosexuelles, ont tendance à décrire le partenaire idéal comme un homme rationnel et protecteur, capable de subvenir à tous les besoins de sa vulnérable compagne. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui décoiffent, hein, extraits justement des horoscopes que j'ai analysés. Donc, par exemple, l'horoscope des taureaux dans Nous deux le 1er septembre 2009 disait « C'est le retour aux valeurs sécurisantes et aux amours. Il se peut que l'homme de votre vie parle même de rembourrer votre plan épargne. Quel idiot a dit que la sécurité matérielle ne contribue pas au bonheur ?» Et j'ai trouvé encore pire, dans Elle, toujours la même semaine, l'horoscope des lions, où là, il est clairement dit « Vous recherchez la sécurité matérielle et morale, et peut-être vous montrerez-vous un brin intéressé. » Les termes choisis sont quand même affreux. « Encore seul, sortez vos antennes. Un homme, un brin paternel et donc rassurant, montre le bout de son nez. » Donc ça, c'est du côté du partenaire de l'homme idéal, le prince charmant dont est censé rêver la lectrice. Et de son côté, la femme, dans ses prédictions, elle apparaît entièrement dévouée à son conjoint et elle se tient constamment à l'écoute de celles et ceux qui l'entourent. Elle est aussi chargée d'entretenir le domicile familial pour créer justement un cocon qui soit confortable pour ses proches. Donc là aussi, j'ai quand même sélectionné des exemples décapants. Là, c'est l'horoscope des béliers publié dans Nous deux la semaine du 6 octobre 2009, où là il est écrit « Vous qui d'habitude ruez dans les brancards, vous faites tout pour que l'harmonie règne autour de vous, pleine de bonnes intentions, vous rénovez la maison de la cave au grenier et rendez la vie plus douillette à ceux que vous aimez. » Autre exemple, donc là c'est l'horoscope des lions publié dans Astro Revue le 29 septembre 2009, où là encore on monte d'un cran, j'aime bien faire en sorte que ce soit pire en pire. Donc c'est dans les gestes quotidiens et les attentions de chaque instant que vous trouverez à alimenter votre relation amoureuse. Le meilleur est à venir. Véritable mère poule, vous porterez vos efforts sur le nid familial et vos enfants vous feront fondre de tendresse. Vous serez toute indulgence pour votre moitié. Donc là, c'est quand même révélateur hein, des stéréotypes de genre qui sont véhiculés dans ces prédictions. Et ce qu'on remarque, c'est que quand même, les auteurs d'horoscopes s'efforcent d'employer des termes qui peuvent s'adapter aux deux sexes. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même assez fréquemment des termes tels que votre partenaire, votre moitié, l'âme sœur, etc. etc. Par contre, quand on lit dans le détail, on voit bien que l'horoscope différencie et hiérarchise les rôles respectifs de la femme et de l'homme à l'intérieur de la sphère privée. On remarque aussi que les activités domestiques, elles se divisent selon le sexe. Pendant que les hommes vont bricoler à l'extérieur ou s'occuper du jardin, les femmes, elles s'adonnent à la lecture, elles refont la déco ou elles s'affairent au fourneau dans cette ambiance cosy. Donc justement, le sociologue Arnaud Escar, il a lui aussi procédé un petit peu à l'analyse de ces énoncés, et il remarque justement que dans cette vision où le masculin domine le féminin, les hommes sont dotés d'un caractère énergique qui plaît aux femmes, tandis que celles-ci, elles sont de nature douce, fragile, secrète, et elles ont constamment besoin d'être rassurées. Donc on voit bien hein, que les horoscopes sont très fidèles au modèle normatif de genre, qu'ils affichent une vision sexuée du social et des rapports de pouvoir qui le traversent. Alors d'ailleurs, les bribes de théories astrologiques mobilisées dans l'horoscope vont venir, en quelque sorte, essentialiser l'opposition hiérarchisée du féminin et du masculin. Alors en astrologie, très rapidement, les rapports entre hommes et femmes sont envisagés comme la projection terrestre des rapports entre le Soleil et la Lune. D'un côté, le Soleil, associé à la clarté, à la rationalité, à l'activité, symboliserait la partie masculine de la personnalité. Par opposition au Soleil, la Lune représenterait la part féminine de l'être humain. Elle renverrait également à l'inconscient, à la sensibilité, à l'imagination. D'ailleurs, à l'exception de Mercure, qui est jugé hermaphrodite, toutes les planètes du système solaire sont dotées d'un sexe astrologique dont découlent les caractères, les rôles et les activités qui leur sont associées. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette division sexuée des corps célestes, elle s'étend au signe du zodiaque. Alors, peut-être que vous le savez, mais en fait, chaque signe est relié à l'un des quatre éléments du modèle aristotélicien. Et en vertu des propriétés, des qualités attribuées aux éléments, donc les signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers et les scorpions, et les signes de terre, capricorne, taureau et vierge, sont classés comme des signes féminins. En revanche, les signes d'air, verseau, gémeaux, balance, et les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, sont classés comme des signes masculins. Or, en astrologie, rien d'étonnant à cela, finalement, compte tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les signes masculins sont considérés positifs, c'est le terme qui est employé dans la théorie astrologique, des signes positifs, actifs, extravertis, par opposition aux signes féminins, estimés négatifs, réceptif et introverti. Donc on voit bien qu'il s'agisse des planètes, des signes ou des éléments. Cette opposition primordiale du féminin et du masculin, elle est redoublée, prolongée par une multitude de paires antagoniques qui viennent la justifier en lui donnant un caractère cosmologique. Mais justement, comme le souligne très bien Françoise Héritier dans La pensée de la différence, le sens réside dans l'existence même de ces oppositions et non dans leur contenu. Loin d'être évidente, ces correspondances symboliques sont des constructions culturelles dont la signification dépend de la différenciation réelle des femmes et des hommes dans une société donnée. Et si l'esprit moderne réfute aujourd'hui la pertinence de ces analogies, on est pourtant bien obligé de remarquer qu'elles imprègnent encore une grande partie de nos représentations concernant les rapports de genre. Et justement, il y a cet exemple du best-seller hein, de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, que tout le monde connaît, qui a été justement joué au théâtre, au cinéma, redoublé justement par une multitude hein, d'autres ouvrages. Donc on voit bien quand même que ces représentations, elles persistent bien dans l'imaginaire quotidien. Donc, on voit bien que l'examen des horoscopes montre que ces chroniques visent un lectorat féminin, mais on peut se demander si les femmes sont les seules à consulter ces prévisions et plus généralement à recourir à l'astrologie. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai voulu justement aller au-delà de la description des contenus astrologiques et je me suis interrogée justement sur leurs conditions de réception. Dans cette optique, j'ai commencé par rassembler en fait les données statistiques relatives à la consommation d'astrologie dans la société française contemporaine. Alors la première enquête qui a été menée sur cette question, elle a été conduite par l'IFOP en 1963, donc auprès d'un échantillon représentatif de 2000 personnes. Alors cette enquête, elle est quand même à prendre avec précaution puisque les chiffres qu'elle a produits hein, sont assez approximatifs car ils indiquent le pourcentage d'individus qui déclarent à la fois connaître leur signe, lire l'horoscope au moins occasionnellement et croire en une part de vérité dans les caractères attribués aux gens par l'astrologie. Donc d'après les résultats de ce sondage, 39% des femmes interrogées ont approuvé ces trois propositions contre 21% des hommes. Donc déjà, on a un écart de 18 points entre les sexes. Alors il y a eu une seconde étude réalisée en 1967 par IRES Marketing qui avait pour but justement de compléter ces premiers résultats en s'intéressant cette fois au taux de consultation des professionnels de la divination. Alors si l'on se réfère à cette enquête, il apparaît que 4,5% des femmes et 1,5% des hommes ont déjà consulté un astrologue. Alors ce qui est intéressant, c'est que la même tendance, en fait, elle se dessine pour les autres spécialités divinatoires, puisque astrologie mise à part, 19,5% des femmes disent avoir déjà consulté une personne prédisant l'avenir. Donc 19,5% contre 6% des hommes. Donc au final, on voit bien que le taux de fréquentation des médiums aussi bien que des astrologues est trois fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Alors toutes les enquêtes qui ont été réalisées par la suite ont confirmé justement l'existence d'un écart statistique très marqué entre les femmes et les hommes en matière de divination astrale. Alors justement, entre 1980 et 2000, la Sofres a mené une série de 5 enquêtes donc qui portaient à la fois sur la consommation des horoscopes et sur la consultation des astrologues. Et si on reprend toutes ces données, tous ces résultats, ce qu'on observe, c'est d'une part que la structure sociodémographique de la croyance astrologique, elle est restée très stable au fil des ans, elle n'a quasiment pas changé. Et on observe d'autre part que l'écart entre les femmes et les hommes demeure quasiment identique depuis les premiers sondages qui ont été effectués dans les années 60. Alors étant donné que je me méfie quand même toujours un petit peu des enquêtes quantitatives et des chiffres, je me suis dit que le fait que ces chiffres aient été confirmés par plusieurs enquêtes ne devait pas m'empêcher de les interpréter justement avec beaucoup de précaution. Tout sondage présente des limites marquées, et ces limites sont encore plus importantes quand on enquête sur des croyances qui sont assimilées à des superstitions archaïques. En l'occurrence, le biais de désirabilité sociale peut conduire les personnes interrogées à désavouer leur intérêt pour l'astrologie afin de délivrer une réponse jugée valorisante. De plus, le poids des stéréotypes de genre s'ajoute à celui des autres normes sociales et peut pousser les hommes justement à manifester une plus grande distance à l'égard d'une pratique considérée comme féminine. Dans ces conditions, je me suis demandé si ces données reflétaient bel et bien la réalité des pratiques astrologiques. Alors pour le savoir et pour en avoir le cœur net, j'ai mené ma propre enquête auprès d'astrologues. Alors par souci de comparaison, j'avais choisi justement de constituer un échantillon paritaire de professionnels qui comprenait 6 hommes et 6 femmes. Au cours de nos entretiens, je leur ai demandé quelle était la part respective de femmes et d'hommes reçues en consultation. Alors là, j'ai été assez étonnée, puisque leurs réponses ont été unanimes. J'ai pas eu une seule réponse dissonante. Toutes Et tous m'ont dit que les femmes représentaient environ 70% de leur clientèle, et ça depuis le début de leur activité professionnelle. Or, ce qui est quand même incroyable, c'est que la suite de mon enquête m'a permis justement de vérifier le bien fondé de ces estimations. Alors justement, dès le début de ma recherche, moi j'avais aussi pour objectif d'approcher une autre population qui est celle des consultantes et des consultants. Donc pour y parvenir, à la fin de chaque entretien, j'ai proposé aux astrologues rencontrés de m'aider en fait à poursuivre mon enquête en me communiquant éventuellement les coordonnées d'amis, de clients ou d'élèves susceptibles de bien vouloir participer à cette recherche. Alors en procédant ainsi par contact successif, finalement j'ai réussi à m'entretenir avec 17 consultantes et 7 consultants. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est en fait un échantillon de boule de neige en cascade qui s'est complètement imposé à moi. Et ce qui est fou, c'est que sa composition correspond parfaitement aux estimations formulées par les astrologues à propos de leur clientèle, puisqu'il comportait 70% de femmes et 30% d'hommes. De manière plus générale, au fil de mon enquête, j'ai constaté que l'univers des pratiques astrologiques est majoritairement composé de femmes, puisqu'elles sont surreprésentées parmi les astrologues professionnels qui donnent des consultations, parmi les astrologues qui signent les horoscopes, et elles sont aussi surreprésentées parmi les consultants et les élèves qui suivent des cours d'astrologie. Alors justement, les témoignages que j'ai recueillis m'ont permis d'identifier plusieurs facteurs susceptibles justement d'expliquer ce phénomène. La première explication, qui est la plus courante, qui est même avancée par les astrologues eux-mêmes, consiste à dire que les hommes s'empêchent eux-mêmes de recourir à l'astrologie, car il s'agit pour eux d'une pratique de femme, comparable au fait de se maquiller, de porter une jupe ou des talons aiguilles. La crainte justement du discrédit social, elle est d'autant plus forte que l'astrologie contemporaine, elle s'est vraiment recomposée autour de l'affectif, du relationnel, de la psychologie, c'est-à-dire des domaines dans lesquels les femmes sont supposées plus compétentes et qui sont associées justement à des dispositions d'esprit féminines. Alors ça permet de comprendre pourquoi justement les hommes s'efforcent, prennent beaucoup de précautions pour consulter un astrologue en toute discrétion et font rarement la publicité de cette consultation auprès de leur entourage. Et justement, les professionnels que j'ai interrogés, ils m'ont confié que leurs consultants dissimulaient leur intérêt pour l'astrologie, allant même parfois jusqu'à détourner le regard ou changer de trottoir quand ils les rencontraient dans la rue, par hasard. Tandis que les femmes, de manière générale, venaient les saluer, venaient au-devant d'eux ou d'elles. Donc d'un côté, les clients se cachent pour consulter. D'un autre côté, les hommes devenus astrologues vont tenter d'apparaître comme des intellectuels, comme des chercheurs, comme des théoriciens. Par exemple, on remarque que l'usage de pseudonymes, la publication d'ouvrages ou l'organisation de colloques, de séminaires sont des stratégies qui sont majoritairement déployées par les hommes pour tenter de légitimer leurs pratiques et d'apparaître rationnel. Alors justement, pour expliquer l'écart entre femmes et hommes, il y a une seconde interprétation qui a été proposée par tous les chercheurs qui se sont intéressés aux faits astrologiques contemporains. Alors je dis tous parce que ce ne sont que des hommes, et que tous ces sociologues s'accordent à dire que la surreprésentation des femmes parmi les astrophiles, elle correspond à un besoin accru d'être aidé, d'être soutenu, d'être réconforté face à une plus grande menace de précarité sociale. Connaissant justement une insertion professionnelle plus difficile que les hommes, les femmes auraient plus de mal à anticiper l'avenir et feraient appel à l'astrologie justement pour dissiper le brouillard d'un avenir incertain. Alors pour ma part, j'estime que cette explication elle est simplificatrice parce que justement elle va réduire l'intérêt pour l'astrologie à un défaut d'emprise sur le temps et du même coup elle identifie l'emprise sur le temps à la programmation de l'avenir professionnel. Alors certes, c'est quand même la conception dominante, hein, cette conception linéaire d'un temps cumulatif, et pourtant, elle est loin de correspondre justement à la réalité des temporalités qui sont vécues par les femmes. Puisque à côté de leur travail salarié, les femmes continuent à endosser la majeure partie des tâches domestiques, des responsabilités éducatives, des soins à la parenté ou encore du travail reproductif, comme l'a très bien montré Lucille dans sa thèse. Donc ces activités, en réalité, elles ne sont pas cloisonnées. Elles s'entremêlent dans l'expérience des femmes et leur articulation, elle va nécessiter justement de concilier l'organisation du cyclique du quotidien avec la planification linéaire du futur. C'est-à-dire que tout en assurant la répétitivité des tâches routinières, les femmes sont quand même tenues de penser à l'avenir des enfants, de penser à l'avenir du conjoint et éventuellement de songer à leur propre futur. Donc justement, dans un ouvrage intitulé « Les temporalités sociales », le chercheur Daniel Mercure observe cette désynchronisation des temps sociaux. Et justement, il dit que cette articulation des temporalités, elle est d'autant plus difficile qu'il n'existe justement aucun cadre temporel auquel les femmes puissent complètement s'identifier dans les formes reconnues de temporalité, dans les conceptions dominantes du temps. Or, la pensée astrologique contemporaine, elle, combine deux façons de conceptualiser le déroulement du temps. La première, d'inspiration traditionnelle, suppose en fait que le retour mécanique des astres va régler de manière cyclique le tempo de l'existence humaine. La seconde, représentation du temps, en revanche, elle est plus moderne, et elle reconnaît justement la capacité de l'individu à se libérer en fait du déterminisme astral pour infléchir le cours des événements qui seraient inscrits au firmament. Donc on voit bien qu'il y a deux visions du temps en fait qui vont cohabiter, coexister dans l'imaginaire des astrophiles. D'une part un temps circulaire, donc fondé sur la régularité des cycles cosmiques, et d'autre part un temps vectorisé, qui est en affinité justement avec la représentation moderne de l'individu, autonome et maître de son destin. Donc justement, la prévision astrologique, elle est vraiment basée sur le rythme de ce qu'on pourrait appeler les horloges célestes, et elle s'attache justement à dévoiler la qualité du temps futur pour guider l'action du sujet. En déchiffrant une carte du ciel, en fait, l'astrologue, ce qu'il fait, c'est qu'il décompose l'existence en différentes périodes dont la nature et dont la durée vont dépendre en fait du sens qui est accordé aux configurations planétaires. Alors par exemple, le rythme de la vie familiale, donc, qui est symbolisé par le cycle lunaire, va être pensé en fait différent et plus rapide du rythme de la vie professionnelle qui est en fait symbolisé par le cycle solaire. Donc on voit bien que cette temporalité cosmique, qui est envisagée comme le reflet du temps vécu, elle est à la fois qualitative, discontinue et polyphonique. Et donc si les femmes s'intéressent davantage à l'astrologie, c'est peut-être parce qu'elle leur offre une sorte de trame pouvant servir justement de support au tissage d'une sorte de patchwork temporel qui serait composé des différents rythmes qui cadencent leur existence. Alors dans le cadre de mon enquête, j'ai aussi pu remarquer que le recours des femmes à l'astrologie traduit bien souvent la volonté d'apaiser les dissonances identitaires qui sont provoquées par la désynchronisation des temporalités sociales. L'éclatement spatio-temporel des statuts endossés dans la vie quotidienne peut effectivement entraîner un sentiment de perte d'unité de soi, c'est-à-dire vraiment un sentiment de morcellement identitaire. Et justement, l'astrologie, elle offre une conception unifiée de l'être humain qui est envisagé comme un microcosme indivisible dont toutes les parties seraient indissociablement reliés. On me souvient du témoignage d'une consultante qui vraiment était frappant puisque elle me disait en fait que à ses yeux l'essence de l'astrologie c'était de réussir à faire la synthèse de la personne. C'est comme ça qu'elle l'exprimait. Elle me disait ben pour moi un thème c'est très complet puisqu'en fait chaque planète va représenter une part de la personnalité et le but de l'interprétation du thème finalement ben, ça va être de relier ces différents aspects de la personnalité pour les faire finalement œuvrer de concert, pour se réunifier soi-même et retrouver sa capacité d'action. Donc on voit bien en fait que l'intérêt pour l'astrologie, il peut très bien surgir à partir du moment où l'individu ne parvient plus justement à réunir des pans qui seraient un peu décousus de sa personnalité. Dans ce cas, l'interprétation du thème, elle vise justement à rassembler ces fragments de la personnalité justement pour les agencer sous la forme d'une mosaïque qui serait cohérente hein, du point de vue de l'individu. Donc ça, ce sont des pistes hein, de réflexion que j'ai esquissées qui méritent, à mon avis, d'être approfondies, mais qui, à mon sens, justement, permettent un petit peu d'affiner l'interprétation et de surmonter les explications plus courantes qui ont tendance à réduire, justement, l'intérêt pour l'astrologie à une incapacité à se projeter dans l'avenir de manière un petit peu trop simplificatrice. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci.